JDL TV, interview de Monsieur Philippe Coé, président du DLR et du groupe Uperio, invité des JDL 2024.
Nous vous retrouvons pour cette dernière interview avec Philippe Coé, président de la société Uperio, loueur de grues à Tours et distributeur en France et à l'étranger, et aussi président du DLR, la Fédération des matériels. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler les fonctions du DLR ?
Le DLR, c'est quoi ? C'est une palette de services à destination des entreprises adhérentes dans tout un tas de domaines. Le juridique, les ressources humaines, les achats, la fiscalité, les problèmes de formation, de recrutement. Un vaste panel et on travaille à offrir aux entreprises, surtout les plus petites d'entre elles, ce service pour les aider à naviguer dans l'environnement dans lequel nous sommes.
Comment le secteur se porte ?
Alors, le DLR, les adhérents du DLR sont accrochés à deux grands secteurs, la construction d'une part, la manutention d'autre part. Il y a un premier contraste là. La construction n'est pas dans une situation très favorable, surtout le bâtiment. Le TP va un peu mieux. Il y a des investissements publics et parapublics qui vont bien. Et la manutention, on est plutôt dans une situation favorable avec la logistique, les plateformes logistiques qui se construisent, des aspects industriels aussi, ou plus en plus d'industriels, décident d'utiliser des prestataires externes pour toutes leurs challenges de manutention. Donc on a un premier défi autour de l'économie dans lequel on navigue. Après, nous avons les grandes transitions, les trois grandes transitions. Le climat, avec pour nous un impact direct sur la décarbonation des matériels et des chantiers. La deuxième transition, c'est le sociétal, avec les aspirations un peu des gens sur nos métiers. Et ça, c'est un défi pour nous, parce que nos métiers ne sont pas très glamour, en tout cas pour certains plus jeunes qui veulent nous rejoindre.
Il y a des difficultés à recruter ?
On a des difficultés à recruter. On ne fait pas exception à plusieurs secteurs, mais nous, on a peut-être plus de difficultés que souvent on a des métiers, surtout des dimensions de service, puisque nous, aussi bien loueurs, distributeurs que aire de réparateurs, sont des métiers de service avec des interventions sur des chantiers dans des conditions difficiles, etc. Pour autant, on flatte un peu l'imaginaire des jeunes, réparer une pelle mécanique, monter dans une grue à Tours, ou conduire une grosse grue mobile, ce sont des métiers qui sont plutôt attractifs, mais on a quand même des difficultés et il faut qu'on travaille à renforcer l'attractivité. La troisième transition, c'est le numérique, avec la digitalisation des process des entreprises, l'intelligence artificielle qui arrive aussi sur nos métiers et qui va avoir un impact, puisque plus on numérisera nos activités, plus on sera capable d'offrir à nos clients, c'est-à-dire les entreprises de BTP et de manutention, des solutions intégrées, que ce soit pour l'administration de nos affaires, les factures, etc., voire pour les données d'exploitation des matériels. Parce que je dis souvent qu'on met en jeu les matériels, on les met en scène, et nos clients veulent de plus en plus savoir ce que font leurs matériels pour pouvoir mieux les maintenir, mieux les exploiter, peut-être demain consommer moins d'énergie, puisqu'on leur demandera de faire des économies dans ce registre-là.
Cette digitalisation, aujourd'hui, ça a aussi un impact sur les métiers, sur la formation. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont prêtes ?
Les batteries deviennent de plus en plus de capacités, mieux intégrées, il y a des systèmes embarqués. Donc on voit arriver, indépendamment des problèmes budgétaires, on voit arriver des solutions qui pourraient fonctionner. Mais d'ailleurs, on a un problème d'alimentation de ces matériels, que ce soit en électricité, en hydrogène, en biocarburant. Donc c'est un premier grand défi de la profession dans lequel la fédération est engagée, avec d'autres fédérations, les fédérations de fabricants de matériel. En France, c'est Evolis et CEMAT, et les fédérations d'utilisateurs, que sont essentiellement pour nous la FNTP, la FFB. Les cinq fédérations travaillent ensemble. On a récemment créé un groupe de travail qui a été force de proposition auprès des autorités, qui a permis que les autorités reconnaissent un peu qu'on existait, parce qu'elles parlaient beaucoup des voitures, elles parlaient beaucoup des camions, des autocars, des choses comme ça. Et elles avaient un peu oublié qu'il y avait aussi beaucoup d'engins de chantier qui fonctionnaient. Alors, on ne représente pas une masse importante, mais quand même, on a une place dans la société. Donc, on a un groupe de travail qui propose des solutions, qui va mettre en place quelques normes, qui va aussi nous aider à flécher les carburants, parce que quand on parle d'électricité, c'est que maintenant le défi, c'est où va-t-on trouver toute cette électricité et qui va nous permettre de faire valoir nos droits pour nos entreprises et de mettre en place peut-être des incitations fiscales, en tout cas des accès à un certain nombre de choses au niveau de la force publique pour nous permettre de basculer vers la décarbonation des chantiers, sujet sur lequel les échéances sont là. On voit de plus en plus de villes qui font des zones à faible émission. Beaucoup de chantiers de rénovation dont on parle beaucoup sont urbains. Et donc là, il va falloir qu'on trouve notre place. Alors, vous avez raison, cette décarbonation, elle nous amène directement sur un deuxième sujet qui est le problème des métiers, de la formation des techniciens, parce qu'une machine électrique ou hydrogène ne se maintient pas de la même façon qu'une machine avec un bon vieux moteur diesel. Et puis, il y a beaucoup d'électronique embarquée, hein, parce que toutes ces machines, tous ces systèmes doivent être pilotés avec beaucoup de soin. Donc, c'est clair que c'est un deuxième défi. DLR travaille beaucoup à l'attractivité des métiers, aussi avec d'ailleurs les fédérations, je dirais un peu sœurs, autour de cette chaîne de valeur du matériel. Et on a récemment vu des choses intéressantes. Il y a eu les World Skills. On en profite pour faire passer un certain nombre de messages auprès des jeunes sur le besoin que l'on a de ces formations, de ces collaborateurs. Et aussi des métiers un peu plus nobles que changer un pneu dans un chantier en plein vent, dans la boue, etc. Il y a des choses beaucoup plus avancées qui permettent aux jeunes de trouver quand même une satisfaction par rapport à ça.
Dans la profession, les monteurs de grue à Tours aussi, c'est un sujet, ça a besoin d'évoluer.
Tout à fait. Par rapport à cette attractivité, il y a aussi le fait de pouvoir qualifier, d'offrir aux jeunes une formation qualifiante, qu'ils ne trouvent pas uniquement un emploi, ils trouvent aussi une profession. Ils trouvent aussi un accès à quelque chose de certifié pour pouvoir faire carrière avec cette formation de base. C'est l'objet du travail qui a été mené au sein de la commission Grue à Tours dans le DLR, dans laquelle moi aussi je suis en tant qu'opérateur d'un business Grue à Tours, et qui a récemment franchi une étape clé avec la première promotion de monteur diplômé qui a été reconnue au sein de notre commission. Il y a une deuxième promotion qui arrivera courant 2025, et ça nous permettra d'avoir officiellement auprès de France Travail un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui reconnaîtra ce métier. Il était temps, parce que c'est un métier qui est compliqué, qui détient des risques, qui demande des compétences multiples, hein, avec à la fois beaucoup de sérieux, quand on travaille à 50 mètres de haut, il faut faire très attention, mais en même temps, les grues à tours sont des Ferrari, hein, des Formule 1 du BTP avec beaucoup d'exigences sécuritaires. Évidemment, on comprend pourquoi. Il y a énormément de choses relatives à l'électronique, à l'électrotechnique. Et donc, ce métier de monteur recèle plein de facettes. Et il était temps qu'il soit qualifié. C'est la volonté de la profession depuis pas mal d'années. On a mis ça en place, on en est très fiers.
Donc, une reconnaissance du travail. Est-ce que dans ce secteur, le vol est un enjeu?
Les grues à tours, un peu moins, parce qu'une grue à tours, ça ne se vole pas comme ça. On vole des câbles, on vole
des éléments, peut-être.
Des cuivres d'alimentation. La grue à tours fonctionne à l'électricité. Par contre, dans la nébuleuse, j'allais dire, dans la sphère DLR, le vol est un sujet important qui a souvent été mal mesuré, mal connu. On ne faisait pas la publicité parmi nos adhérents qu'on s'était fait voler des nacelles ou des pelles. On a récemment brisé un petit peu cela et on s'est rendu compte que c'était un problème important pour la profession. Donc on est en train de créer une démarche en rapprochement avec les autorités. Les autorités aussi ne se rendaient pas compte. Vous savez, il y a des départements en police et en gendarmerie spécialisés pour le vol des voitures de sport, des ensembles de choses. Et ils ne sont pas rendus compte qu'une pelle qui coûte 100 000 ou 200 000 euros, ça a autant de valeur, voire plus, qu'une voiture de sport automobile. Et ils ont répondu à l'appel en essayant de mettre en place un certain nombre, d'une part, de diagnostics. Donc, notre première démarche va être de mieux reporter ce qui se passe, de se former mutuellement, à la fois au niveau de nos responsables de parc et des autorités de police et de gendarmerie, pour que quand on voit passer une remorque sur laquelle il y a une grosse pelle mécanique qui a une valeur de 500 000 euros à la frontière, qu'on réagisse très vite en disant « mais est-ce que vous avez les papiers de propriété ?» etc. Parce qu'il n'y a pas d'immatriculation toujours. Pour autant, avec les systèmes de tracking qu'on a aujourd'hui, on est capable de remonter sur le propriétaire assez rapidement. Et donc, il y a des choses qu'on va mettre en place. On a, mi-octobre, un événement de signature d'un partenariat formel entre la Fédération et les autorités de police et de gendarmerie. Et derrière ça, on va mettre en place tout un protocole, ce qui permettra à nos adhérents, quand ils sont victimes de ce genre de vol, de pouvoir rapidement porter plainte et déclencher, évidemment, une intervention, ce qui devrait permettre d'éviter les pertes. Parce que, bon, malgré tout, ce n'est pas des matériels qui se déplacent à 200 km/h sur l'autoroute. Donc, on doit pouvoir, si on réagit rapidement, on doit pouvoir éviter que, en particulier, les matériels sortent du territoire. Parce que dès qu'elles sortent du territoire,
c'est terminé.
Là, on a d'autres challenges. Donc c'est en effet un des chantiers à l'actualité de la fédération en ce moment, le vol, avec la démarche qu'on fait avec nos adhérents loueurs essentiellement.
Donc la décarbonation, le vol, la formation et les ressources humaines sont les grands enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avancer un petit peu plus vite, là, maintenant, tout de suite?
Je mettrais volontiers en avant l'aspect réglementation, l'aspect respect un peu des normes. On est dans un métier dans lequel tous ces matériels, et en particulier ça va arriver avec, je vous parlais des zones à faible émission dans les grandes villes, etc., on a besoin de mettre peut-être un certain nombre de règles un peu plus clairement, plus formellement en place, mais que ces règles soient réellement respectées et que, à l'instar d'un certain nombre de choses qui existent mais qui n'est pas respectée, par exemple les visites approfondies, la formation des collaborateurs, des usagers, etc., parfois on se rend compte qu'il y a des chantiers sur lesquels des matériels obsolètes qui ne respectent pas ces règles sont encore utilisés. Alors ça correspond à toute l'économétrie de ce métier qui est parfois délicate, donc les gens ont tendance à essayer de faire un peu des impasses sur un certain nombre de choses, mais ça conduit après à une accidentologie qui est pas acceptable, hein, et derrière, évidemment, à des normes supplémentaires. Alors vous aurez toujours le problème que les grands groupes respecteront ces normes, auront un handicap de coût par rapport à des plus petits acteurs, donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre et qu'on se comprenne tous collectivement avec les confrères et avec les autorités pour que ça avance un peu plus vite et que derrière des règles qui sont mises en place soient respectées. Ça sera pour la bonne cause. Il faut que tout le monde en profite et qu'on fasse en sorte que ces métiers soient globalement plus attractifs.
Philippe Coué, comment vous voyez l'avenir déjà en France?
On est tous dans l'économie globale de la construction en France, hein, qui est un peu en panne pour différentes raisons. Des raisons de macroéconomie, de taux d'intérêt, d'inflation, de pression sociétale sur les chantiers, le fait qu'on ne veut plus bétonner, donc le logement par exemple. Et ça, tout le monde attend là, depuis maintenant plus de 12 mois, attend, on ne sait pas très bien quoi. Alors on voit arriver aujourd'hui des choses qui se stabilisent, comme les taux d'intérêt, hein, comme l'inflation, ce qui est une très bonne chose, parce que aussi bien la vente de matériel, et je pense à nos amis distributeurs, que le travail de nos clients sur la construction d'un projet, que ce soit immobilier ou d'infrastructure, ça s'inscrit dans le temps. Donc, il faut avoir une visibilité de coût, une façon de le financer sur plusieurs années. Et depuis maintenant, 2022, on va dire, hein, depuis 2 ans, l'absence de visibilité fait que tout le monde attend. Dans notre métier, l'attente n'est pas une bonne chose parce que ça fait annuler beaucoup d'ambition. On le voit, on a un décrochage entre les permis de construire et les démarrages des chantiers. Au niveau des statistiques globales, uniquement sur le logement, on voit qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de permis de construire, mais des chantiers ne démarrent pas parce que les gens attendent. Donc on a déjà ce premier volet d'économie. Encore une fois, il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on a un nouveau gouvernement qui arrive sur la France, on va rester optimiste. Mais on a une crise de logement qui est terrible et qu'il faut arriver à juguler pour pouvoir remettre les choses en avant. On a ce défi de la décarbonation qui ne va pas être facile, qui dépasse simplement l'aspect matériel.
Qui va être coûteux.
Mais qui ne va pas être facile. On parlait de carburant, on parlait de formation aussi des conducteurs d'engins. Ça, c'est compliqué parce que même si on est tous partants, il y a un impact économique qui est assez colossal. Une machine avec un système d'énergie qui vient de choses renouvelables, ce n'est pas facile, ça va coûter très très cher. Ça va imposer aux loueurs un changement de flotte important, hein, puisque voilà, les matériels ne seront plus louables, les matériels historiques ne sont plus louables. Quand on sait que la durée de vie d'un matériel, ça atteint parfois 10, 15 ans, voire dans les gravatos une vingtaine d'années, ce n'est pas facile. Et puis il y a une troisième chose que l'on doit suivre, c'est le rôle du distributeur, le métier de distributeur, hein, qui dans le DLR, il y a le D-distributeur, dans lequel il y a besoin de retrouver un bon équilibre pour savoir un petit peu comment ces métiers de distribution, qui sont incontournables, en particulier par rapport à d'autres dimensions, le fait qu'ils couvrent le territoire, parce qu'il y a besoin d'être partout, hein, les chantiers, les matériels de BTP ou même de manutention, ils ne sont pas que dans les grandes villes, ils peuvent être au milieu de nulle part en train de faire une autoroute ou un pont. Il y a besoin de s'en occuper et évidemment, les distributeurs sont là pour offrir à la fois les services, les pièces de rechange, etc., qui sont indispensables au bon fonctionnement. Donc, il y a un certain nombre de défis et on va y arriver, mais ça dure un peu. Donc, on commence tous à être impatients de voir la reprise.
Qu'est-ce qui se passe à l'étranger?
Est-ce que c'est contrasté à l'étranger.
C'est différent de ce qui se passe chez nous?
Très contrasté. L'Allemagne est à peu près dans la même situation que la France, avec d'autres problématiques avec aussi un manque de visibilité qui est, encore une fois, chez eux comme chez nous, et pose un problème. Certains pays vont mieux. Je pense que le Royaume-Uni est en train de sortir et devrait avoir une politique d'infrastructure ça va beaucoup passer par la dépense publique. Parce que la dépense privée, que ce soit pour l'investissement locatif ou pour simplement se loger, les gens vont encore un peu attendre, mais les taux d'intérêt qui baissent, c'est une très très bonne chose. Mais par contre, la dépense publique, dans certaines économies, je pense au Royaume-Uni, je pense en Scandinavie ou aux États-Unis, ou dans lequel je suis opérateur, la dépense publique va aider, a déjà nous a permis de moins souffrir qu'on ne le voit en France, et devrait nous aider à repartir. Et puis pour la France et l'Allemagne, on va plutôt attendre la fin 2025, début 2026. En tout cas, c'est ma vision des choses.
Merci Philippe Coué.
Merci beaucoup.